Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Jean-Georges Kigogora.
Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Agathe Kawe. Voici le titre de l'actualité de ce mercredi 2 octobre 2024. L'école fondamentale de la zone de Wilizi, en commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura, connaît beaucoup de problèmes qui rendent compliquée la transmission des apprentissages aux élèves. Les enseignants se lamentent. Et puis le virus Marburg s'est déjà déclaré au Rwanda, inquiète les autorités sanitaires du Burundi. La ministre de tutelle alerte la population sur la gravité du virus. Enfin, le LUCOM plaide pour la promotion de la bonne gouvernance dans tous les secteurs pour un développement durable. Vous entendrez son président Gabriel Loussiri dans ce journal.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Nous commençons ce journal par le secteur de l'éducation. Les enseignants avouent leur incapacité à faire leur travail à cause de nombreux problèmes que connaissent les écoles fondamentales où ils enseignent. C'est le cas de l'école fondamentale de la zone de Rubirizi, en commune Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura. Parmi les problèmes rencontrés à cette école figure le nombre pléthorique des écoliers, le manque d'eau potable ou encore des toilettes. Les enseignants ont exprimé leur désarroi lundi au cours d'une réunion avec les parents pour analyser ces problèmes. Franck Kazé nous en dit plus.
Les enseignants sont désespérés. Pour eux, il est devenu pratiquement impossible d'enseigner dans un contexte où les écoles manquent de tout. Selon eux, les enfants qui apprennent dans d'aussi mauvaises conditions évolueront avec un niveau extrêmement médiocre. Comme en témoigne, sans complexe, cette enseignante de première année.
Nous ne prendrons pas de cahiers de calligraphie, tout comme nous ne leur donnerons pas de devoirs ou de tests. Nous n'avons pas de place pour conserver le matériel. L'armoire est complètement endommagée. La porte ne ferme pas. Les fenêtres non plus. Et si je garde le matériel des enfants, ainsi que le mien, tout sera volé.
Parmi les grandes lacunes de ces écoles, ces enseignants soulignent la pléthore des écoliers qui n'ont même pas de banc pupitre pour s'asseoir. Pire, des cas de choléra ont déjà été enregistrés par manque d'eau et de toilettes.
J'enseigne à 170 enfants. Comment pourrais-je assurer le suivi de ces 170 élèves alors qu'ils sont assis à même le sol, le dos courbé? Qu'aura appris un tel enfant lorsqu'il arrivera en sixième? De plus, l'année dernière, certains enfants ont attrapé le choléra. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni toilette, ni eau.
Les directions de ces écoles ont demandé aux parents de contribuer financièrement afin de pouvoir équiper les classes. Mais pour les enseignants, les contributions des parents ne pourront pas résoudre à elles seules les problèmes colossaux de ces établissements.
Merci bien, Franck Kazé. Dans le domaine de l'économie, le Burundi devrait promouvoir un bon mécanisme de bonne gouvernance et mettre en avant les compétences dans l'attribution des postes. Sinon, il n'atteindra jamais un développement durable. C'est une analyse de l'ONUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Dans une conférence de presse organisée ce mercredi, Gabriel Roussili, président de l'ONUCOM, a indiqué que c'est notamment ces deux défis qui ont été les obstacles majeurs à la réalisation du programme national de développement PND. On l'écoute.
Les défis ont été nombreux. D'abord, la rédaction même du PND que nous sommes en train d'évaluer. Par exemple, il était très difficile de faire évaluer sur base des indicateurs qui ont été mis en place. Donc, c'était un document qui a rencontré beaucoup de problèmes. Tantôt, on disait qu'il y avait eu un problème de ressources financières, voire même humaines, pourquoi pas, mais aussi d'autres défis. Le Burundi, souvent, connaît des crises depuis l'indépendance, une fois les 10 ans. C'est un défi majeur, d'où l'instauration de la gouvernance politique, économique, administrative, sociale, judiciaire. Donc, tous les aspects de la gouvernance doivent être tenus en compte. Parce que, avant, nous retombons dans les mêmes problèmes parce qu'on n'a pas vraiment instauré sur ces mécanismes de gouvernance. Donc, je fais un appel vivant que ces questions de crise soit traitée pour que les maux de développement soient indéfinables. Quand on regarde vraiment les objectifs de la vision et du PND, surtout de la vision, parce que le PND, c'est l'outil dominant de la vision, c'est extrêmement important qu'on traverse les préalables. Ce sont des préalables extrêmement importants.
Dans le domaine de la santé, face à la récente présence du virus Marburg au Rwanda voisin, les autorités sanitaires du Burundi alertent la population. La ministre de la Santé publique, Lévine Baradahana, dit que ce virus est très dangereux. Bien que le Burundi soit actuellement épargné, la ministre insiste sur l'importance d'adopter des pratiques d'hygiène rigoureuses à titre préventif.
C'est actuellement une épidémie de la maladie à virus de Marburg et cette information a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il s'agit d'une maladie très contagieuse et hautement mortelle. La maladie se transmet essentiellement par le contact de sang ou tout autre liquide biologique provenant d'une personne infectée par le contact avec les surfaces ou les objets contaminés par ces liquides ou le partage des outils ou le partage des vêtements avec les personnes contaminées. Cette maladie s'accompagne, se manifeste par de la fièvre, des maux de tête très sévères, des frissons ou des malaises généralisés, accompagnés par une hémorragie sous-cutanée, des saignements nasaux, des saignements vaginaux, des saignements gingivaux ou des vomitures de sang ou du sang dans les selles. La période d'incubation est de 3 à 21 jours. Face au risque très élevé de propagation de cette maladie dans notre pays en général et dans les provinces frontalières avec le Rwanda en particulier, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a pris au sérieux cette information. Ainsi, nous appelons toute la population vivant au Burundi à redoubler d'efforts dans l'application strictes des mesures de prévention pour éviter la contamination et la propagation de ce virus de Marburg. Ces mesures de prévention sont les suivantes. Éviter les contacts directs avec des personnes, qui qu'elles soient. Se laver régulièrement les mains avec du savon et du désinfectant. Signaler tout cas suspect aux autorités sanitaires les plus proches. Éviter de s'opérer les mains en ce moment de suspicion de cette maladie. Éviter de toucher les liquides provenant de l'organisme humain d'autres personnes, même les personnes non malades. Consulter rapidement les structures de soins, les centres de santé et les hôpitaux, les plus proches, dès l'apparition des premiers signes suspects de la maladie. Le gouvernement du Burundi rassure toute la population vivant au Burundi que toutes les mesures relatives à la prévention et à la prise en charge des malades du virus de Marburg ont été prises. Ils font nos efforts pour barrer toute la course à cette terrible maladie.
Voilà, c'était Lévine Baradahana, ministre burundaise, ayant la santé publique dans ses attributions. Nous marquons une courte pause et le journal continue.
Inzamba.
Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, les réfugiés burundais du camp de Kiakatu en Ouganda demandent une protection. Leur camarade a été tué dimanche dernier à son domicile par des éléments non encore identifiés qu'il avait décapité avant de lui voler une somme d'argent de 13 millions de shillings ougandais. Sa femme est emprisonnée au cachot de la police pour des raisons d'enquête. Plus de détails avec Audace Nibona.
Les réfugiés burundais du camp de Kiakatu en Ouganda disent qu'ils vivent dans une insécurité permanente. Les gens sont régulièrement tués. Le dernier cas en date étant celui d'un homme tué, décapité, c'était le dimanche dernier. Écoutez ce témoignage.
C'était le 29 du mois de septembre dernier quand des malfaiteurs se sont introduits dans la maison d'un commerçant connu sous le nom de Rukundo qui vendait du ciment et des tôles. Ils sont entrés et ont déplacé la femme vers une autre chambre alors que le mari avait déjà été ligoté. Ils ont demandé de l'argent. Sans hésiter, il lui a donné 13 millions. Après, ils l'ont tué et lui ont coupé la tête et les organes génitaux avant de partir à bord de leur véhicule. La femme a crié et les voisins sont arrivés après le départ des malfaiteurs. Quand la police est arrivée, la femme a été interrogée. Proche du défunt, soupçonnait la femme d'être impliquée dans l'assassinat de son mari. Pour les raisons de l'enquête, la femme est emprisonnée.
Il demande aux services de sécurité de traquer les malfaiteurs qui opèrent dans le camp.
Nous demandons aux représentants des réfugiés au niveau du camp, que ce soit les policiers ou les militaires, de nous aider à retrouver notre sécurité, car des gens sont en train d'être sauvagement tués. Le cas d'espèce me fait vraiment peur. Ces derniers jours, les motards sont régulièrement tués. Ce sont les clients qui transportent, qui les tuent à l'aide de marteaux. Après, ils volent leur moto. Par exemple, à Kambabinega, un motard a failli être tué après un coup de marteau qui lui a été infligé. Dieu merci, il n'est pas mort. Il y en a un autre à Kabweza, mais lui n'a pas eu la chance de survivre. Il est mort sur le coup. Et tous ces forfaits se commettent ici au camp.
La rédaction de la radio Inzamba Agateka Kawe a cherché le représentant des réfugiés au camp de Kiakatu pour qu'il s'exprime là-dessus, mais sans succès.
Du camp de Kiakatu en Ouganda, rendons-nous dans le camp de Douta en Tanzanie, où la peur est grande chez les réfugiés. À l'origine, c'est le retour dans ce camp d'un Burundi prénommé Joris, qui travaillerait de mèche avec le service national des renseignements burundais. Ce Joris est connu dans le camp pour avoir été complice dans les cas d'enlèvement, de disparition et d'emprisonnement des réfugiés burundais. Les détails dans ce reportage d'Eddie Claude Nininazwe.
Selon nos sources, au sein de certains réfugiés du camp de Douta, l'agent du service secret burundais, connu sous le prénom de Joris, après plus d'un mois d'absence dans le camp des réfugiés de Douta, où il est installé depuis 2017, est de retour dans le camp depuis vendredi de la semaine dernière. Nos sources disent que Joris, à son retour, a révélé qu'il était parti en réunion de travail pour traquer tous les opposants du régime de Gitega. Les réfugiés se disent très inquiets et demandent au gouvernement tanzanien et au HCR de retirer du camp de Douta cette personne qui s'est manifestée dans plusieurs cas d'enlèvement, de disparition forcée et d'emprisonnement de réfugiés burundais.
Dimanche, quand il avait bu un verre, il a révélé aux gens qui étaient autour de lui qu'il était dans des réunions, il a participé dans différentes réunions organisées par les solutions secrètes burundais. Il a dit qu'il était avec l'agent des services secrets qui travaille à l'ambassade du Burundi à Kampala, celui de Kigoma, du consulat de Kigoma et les autres informateurs des services secrets burundais qui se trouvent en Douta et à Yalbousse. La réunion avait comme objectif de traquer tous les opposants qui se trouvent en Tanzanie ou dans la sous-région, et les opposants et les défenseurs des droits humains. Il a dit que le travail va commencer sur lundi passé, et que dès lundi, ils vont commencer à traquer toute personne qui est opposant au régime de Gitega et les défenseurs des droits humains. Nous demandons à Serge de faire le plaidoyer auprès des autorités, du camp, afin qu'ils soient chassés du camp. Ici, il y a la police, il y a les sanctions, il y a beaucoup de moyens qu'on peut utiliser pour assurer la sécurité, sans pouvoir passer sur quelqu'un qui est illégal, et qui vit légalement ici, en zone 12, village 21. Nous demandons aux défenseurs des droits humains d'être nos porte-parole, un peu partout, comme le font toujours.
Face à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu obtenir la version du responsable du camp de Douta, ni celle du HCR, pour qu'ils apportent plus de lumière sur ce dossier.
Merci, Eddie Claude Nina Azoué, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.